RFI Matin, suite F1, dans 18 minutes, un nouveau journal et le point à nouveau sur le conflit qui s'installe entre Israël et l'Iran. Les tirs de missiles iraniens ont fait au moins 10 morts et 200 blessés en Israël cette nuit. L'armée israélienne a continué, elle, ses frappes sur l'Iran, notamment Téhéran, où l'on retrouve Rassia Vejghazi à 8h, temps universel. D'ici là, vous suivez l'évolution de la situation avec notre live sur notre site RFI.fr. Et tout de suite, c'est le journal des sports. Et c'est avec vous, Salieu Diouf. On commence avec du football où la Coupe du Monde des clubs qui a débuté aux États-Unis.
Et pour le premier match, pas de but entre les Américains de l'Inter Miami et les Égyptiens d'Al Ahly. La rencontre se disputait au Hard Rock Stadium à Miami. C'est dans ce stade que Lionel Messi et son équipe jouent toute l'année. C'était un match que l'on peut qualifier d'équilibré puisque chaque équipe a eu sa mi-temps. Mahmoud Trezeguet, l'international égyptien, a manqué un pénalty à la fin de la première période. Son coéquipier en sélection, le gardien de but El Shenawy, s'est aussi fait remarquer en faisant des magnifiques parades, et notamment une plus particulière face à Lionel Messi. Le prochain match pour les Égyptiens, ce sera jeudi face aux Brésiliens de Palmeiras.
On change de ballon rond en attendant et on parle de basket.
Samedi soir, à Pretoria, en Afrique du Sud, les joueurs de Al Ahly Tripoli, cette fois-ci, ont soulevé la coupe de cette 5e édition de la BAL, la Ligue africaine de basketball, une nouvelle ligue lancée en 2020 qui met en lumière le basket africain. Des stars de la prestigieuse NBA étaient présentes lors de cette finale. Le champion NBA, ex-capitaine de l'équipe de France, Boris Diaw, ou encore Joachim Noah, ancien des Chicago Bulls. Valentin Hugues, vous avez rencontré ces deux joueurs à la retraite qui ont décidé de s'impliquer dans le développement du basket sur le continent.
Habitué au parquet de Chicago, l'ancien joueur Joachim Noah salue l'ambiance de cette finale à Pretoria.
Tout le monde est chaud, tout le monde est excité, le stade est plein, c'est vraiment beau à voir.
Mais il n'est pas seulement spectateur. L'ancien joueur NBA a décidé de s'impliquer dans le développement du basket sur le continent. Il est ambassadeur de cette balle.
Bon, maintenant, ça fait 5 ans, c'est la 5e saison. Et voir le développement et voir comment les choses changent. On voit qu'il y a plus de stades qui sont en train de se créer partout sur le continent. Ça, c'est super. Quand on voit un match BAL, la finale BAL, je crois que ça inspire. Ça inspire la prochaine génération.
Une inspiration pour les jeunes et un intérêt économique avec de grosses marques comme Air Jordan qui sponsorise cette nouvelle ligue. Boris Diaw, champion avec San Antonio en 2014.
C'est vrai que le sport est fédérateur et on le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là sur la balle. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Le basket, entre autres, apporte beaucoup de belles valeurs dans lesquelles beaucoup d'entreprises se projettent également. Donc je pense que c'est de bon augure. Il faut continuer dans ce sens-là.
Après le sacre de Tripoli, le Sénégalais Jean-Jacques Boissy, MVP de la compétition, a dédicacé la victoire à la jeunesse africaine. Valentin Hugues, de retour de Pretoria, RFI.
Al Ahly Tripoli qui gagne d'ailleurs la balle pour la première fois de son histoire.
Un mot de cyclisme à présent sur le continent.
Et c'est un coup de tonnerre qui a éclaté au Tour du Cameroun 2025. Alors qu'il détenait le maillot jaune depuis la première étape, le Camerounais Boris Michel Kintche se l'est fait chipper hier lors de la 9e et avant-dernière étape entre Puma et Yaoundé. L'Algérien Islam Mansouri a fait coup double au meilleur moment pour se placer sur la plus haute marche du podium. Écoutez sa réaction.
Je suis très content pour remporter le maillot jaune, la 9e étape, avant-dernière étape. Le tour pas encore joué, il reste une étape demain, c'est très difficile. L'étape d'aujourd'hui, c'était un peu difficile, le premier kilomètre. Le maillot jaune était un peu souffrif dans la première montée. Et on a décidé, moi et mon équipe, on va poser nos rythmes jusqu'à la ligne de l'arrivée. Et la fin de parcours, c'est très difficile. Toutes les équipes attaquent nous, mais on a très très bien géré la course. Il reste demain l'étape décisive pour le Tour du Cameroun 2025. Et on va voir. Inch'Allah, on a gagné le Tour.
Et ce dimanche, Mansouri défendra sa tunique de leader à l'occasion de la 10e et dernière étape entre Nzonzap et Yaoundé, disputée sur une distance de 108 km.
Un mot d'athlétisme pour finir.
L'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango s'est montré rassurant sur notre antenne hier après-midi. Le champion du monde du triple saut était dans nos locaux pour faire le point sur sa dernière saison de sa carrière. Âgé de 32 ans dans une dizaine de jours, il a prévu de se retirer à l'issue des mondiaux de Tokyo en septembre prochain. Sa montée en puissance est lente avec des sorties plutôt moyennes jusqu'à présent. Il sort par exemple d'un triple bond à 16,56 mètres lors du meeting d'Oslo cette semaine, très loin de son record d'Afrique de 18,07 mètres. Mais Hugues Fabrice Zango l'assure, il sera prêt pour le jour J.
Mon barreau d'honneur, c'est gagner Tokyo. C'est Bon, certains diront que c'est prétentieux de le dire comme ça, alors que je viens de sauter 16-50 et tout ça, mais on est à 3 mois de l'échéance, quoi. Et là, j'ai repris les entraînements il y a à peine 3 semaines. Je pense que Tokyo, je serai largement prêt, mais déjà dans un mois, ça sera déjà tellement différent. Hein? Ça sera déjà tellement différent. J'aurais déjà fait un autre cycle de puissance et tout. Je pense que il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir à ce niveau et on sera prêt pour Tokyo. Et Tokyo a une revanche à prendre, quoi, sur cette piste-là.
Hugues Fabrice Zango, interrogé par l'excellent Hugo Moissonnier dans l'émission Mondial Sport. Vous pouvez retrouver l'entretien complet en podcast sur notre site RFI.fr.
Merci, Saliou Diouf. Bonne journée.
RFI Matin.
Ce sont des incendies tels que leur fumée a traversé l'Atlantique et pollué l'air européen cette semaine. Le Canada lutte contre les flammes alors que cette semaine plus de 220 incendies étaient répertoriés dans les forêts du pays, dont plus d'une centaine hors de contrôle, principalement dans le centre, au Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Les autorités ont prévenu que la saison estivale s'accompagnera d'un risque élevé et continu de feux de forêt. Et dans notre tour du monde des correspondants ce dimanche, on se penche sur quelques pays particulièrement concernés par cette problématique, à commencer par le Brésil, où la lutte contre les flammes semble inégale, malgré les efforts du gouvernement, Martin Bernard.
Oui, c'est bien évidemment un problème majeur au Brésil, qui abrite une bonne partie de l'Amazonie, mais il y a aussi des zones très vulnérables, comme le Pantanal. On se rappelle tous des gigantesques incendies qui ont dévasté la forêt en plusieurs endroits. Alors, pourquoi ça brûle? En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord les changements climatiques qui provoquent la sécheresse, même dans des forêts tropicales humides comme l'Amazonie. Donc, une forêt très sèche, ça brûle plus facilement. Ensuite, il y a les pyromanes qui mettent le feu pour provoquer justement la déforestation. Donc, on a un problème de nature criminelle qui est amplifié par les changements climatiques. Le gouvernement a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence pour lutter contre les incendies en début d'année. Il a accordé davantage de moyens, mais la partie est loin d'être gagnée d'avance.
Martin Bernard au Brésil, un autre pays où la saison des incendies a déjà commencé cette année, c'est la Russie, où 2025 pourrait être la pire année en la matière depuis 5 ans, Anissa El-Jabri.
Oui, les experts préviennent depuis février. L'hiver a été chaud en Russie, très pauvre en neige. Le printemps est arrivé plus vite que d'habitude et en plus, il a été très peu pluvieux. Le sol est donc déjà très sec et le terrain particulièrement propice aux flammes. Les autorités elles-mêmes ne cachent pas leur inquiétude. Dès mars, le ministre des Ressources naturelles qualifiait la situation de difficile, notamment dans la partie européenne, à l'ouest. Cette zone est densément peuplée. La région de Rostov, dans le sud-ouest du pays, est déjà en alerte sécheresse, mais c'est bien plus à l'est, comme toujours, dans les forêts de Sibérie et celles proches du lac Baïkal, que les flammes ont commencé à dévorer l'espace. Le 29 avril dernier, le Service aérien fédéral de protection des forêts contre les incendies décomptait déjà en Transbaïkalie, près de la Mongolie, près de 680 000 hectares brûlés. C'est 10 fois plus qu'en 2024. La région est d'ailleurs déjà sous état d'urgence. Le record de dégâts en Russie date de 2021. 19 millions d'hectares disparus en fumée. 2025 pourrait le battre. Sauf qu'entre-temps, avec la guerre en Ukraine et la répression, de nombreuses ONG ont été bannies. Greenpeace a ainsi été classé indésirable en Russie en 2023.
Anissa El-Jabri à Moscou, merci. Et sur le continent européen, quand on parle d'incendie, on pense forcément à la Grèce, où les feux dévastateurs font la une très régulièrement, avec souvent des images impressionnantes, Joël Bronner.
Ces dernières années, la Grèce a en effet subi de nombreux incendies marquants, à commencer par celui du village côtier de Mati, près d'Athènes, un drame national qui a fait plus de 100 morts en 2018. Il y a 2 ans, il y a aussi eu l'évacuation de près de 30 000 personnes, dont de nombreux touristes, seulement un mois avant le plus gros feu jamais enregistré en Europe, c'était dans le nord du pays. Et puis en août dernier encore, les flammes ont cette fois atteint la banlieue d'Athènes, la capitale, où vit environ un tiers de la population grecque. Longtemps, les autorités grecques ont été pointées du doigt pour leur manque d'anticipation de ce phénomène saisonnier. Alors, depuis 2021, avec l'aide de l'Europe, ce sont presque 4 milliards d'euros qui sont progressivement investis pour moderniser les infrastructures de la protection civile et pour améliorer la réactivité des pompiers dès le départ des feux.
Joël Bronner à Athènes, et pour terminer sur le continent africain, cette fois loin d'être épargné, il y a notamment l'Afrique du Sud. Le pays est en ce moment confronté aux inondations, mais c'est bien par les incendies d'ampleur que le début de l'année a été marqué, Valentin Hugues.
Oui, encore le mois dernier, la célèbre Table Mountain, une grande montagne qui surplombe la ville du Cap, était en proie aux flammes. C'est un problème récurrent en Afrique du Sud. Ici, tout le monde a encore en tête l'épisode Knysna, une ville ravagée par les flammes en 2017, un véritable traumatisme pour le pays. L'année dernière, trois pompiers perdaient la vie dans la région du KwaZulu-Natal. Des feux qui font désormais partie du paysage sud-africain et qui se multiplient à cause du dérèglement climatique, avec des températures élevées, des sols secs et un vent chaud. Alors de nombreuses organisations pointent du doigt l'inaction du gouvernement. En Afrique du Sud, il n'y a pas vraiment de plan national de lutte contre les incendies. Les ressources ne sont pas les mêmes en fonction des provinces et le financement est jugé insuffisant. Le programme Working on Fire, qui travaille sur la prévention des incendies, demande donc des mesures urgentes, des mesures fortes et nationales en matière d'adaptation au changement climatique.
Valentin Hugues en Afrique du Sud, notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr. 9h52 à Paris. Comment former la prochaine génération africaine de main-d'œuvre hautement qualifiée, améliorer encore les compétences des nouveaux talents du continent, notamment dans les domaines techniques et scientifiques? C'est l'objectif que se sont donné dans l'enseignement supérieur les centres d'excellence africains, les CEA. Un programme qui célèbre ses 10 ans d'existence et c'est l'Afrique en marche de ce dimanche avec Frédéric Gara.
C'est au Ghana, en avril dernier, que les représentants des 20 pays associés à ce projet de centre d'excellence ont célébré le 10e anniversaire de ces CEA, cofinancés par la Banque mondiale et l'AFD. À cette occasion, la ministre de l'enseignement supérieur du Malawi a résumé la philosophie du projet, se souvient Wally Wan.
Elle a dit que ce que ce programme lui a apporté, c'était de l'afro-optimisme, c'est-à-dire voir que l'Afrique est capable de le faire et de produire ses compétences de très très haut niveau pour son propre développement économique. Et je crois que ça, c'est important.
Wally Wan est justement directeur sectoriel éducation pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale, une banque qui a investi 657 millions de dollars dans 80 centres d'excellence formant à l'agriculture, la médecine, l'énergie ou encore l'environnement.
Mais il y a aussi le lien entre les centres d'excellence et l'industrie. Ils développent des partenariats. Ils s'assurent que lorsque ceci est fait, les gens vont rester dans le pays. Par exemple, c'est des Sénégalais qui vont aller au Togo, c'est des Togolais qui vont aller au Burkina, puis ils vont revenir chez eux. Et on a pratiquement 18 000 stages qui sont faits. Donc, lorsque les gens sont formés, ce lien avec l'industrie, ils ont déjà, en fait, pratiquement un emploi ou bien un stage en commençant. Ils développent des programmes qui sont des programmes qui devraient pouvoir être commercialisables. Ceci leur permet de pouvoir retirer des revenus de ce qui est fait.
Illustration de la pertinence de ces programmes, au CERSA de Lomé, les élèves et chercheurs togolais de ce centre d'excellence sur les sciences aviaires ont travaillé sur les larves de mouches et ont pu trouver des solutions efficaces et financièrement avantageuses pour la pisciculture. Docteur Kodjo Niatape Mlaga.
Ça a eu un impact du point de vue production où même l'entrepreneur même s'est senti satisfait de l'utilisation de ces asticots-là, au point où il développe même des techniques pas possibles pour pouvoir produire majoritairement ces asticots. Et selon même lui-même, ces asticots lui auraient donc réduit le coût de production de l'aliment et ça a aussi permis à ce qu'il puisse donc réduire aussi l'utilisation de la farine de poisson. Donc il est sorti donc de ce cercle-là.
Piero Akakpovi, PDG de l'Optifarm, société togolaise spécialisée dans la production de poissons tilapia.
C'est grâce à eux d'ailleurs qu'on a eu accès aux mouches soldats noirs qui nous donnent des larves qui contribuent à hauteur de 20% au moins dans la composition des aliments pour nos poissons. Ceci constitue directement un atout pour nous et à coût vraiment réduit, on pourra l'exploiter pour le bien-être de nos clients et pour notre population.
Jacob Kokou Tona est le directeur du CERSA de Lomé.
L'existence ou bien le financement de ces centres par la Banque mondiale est un tonneau d'oxygène pour booster la recherche dans nos universités, pour l'enseignement de qualité, ça il faut le dire aussi, et puis les bonnes pratiques. Et en le faisant, ça fait exprimer à certaines personnes qui ont des potentiels qui sont cachés en eux. Ça soutient également nos universités en matière de la qualité de la formation, en matière de la collaboration, de la coopération. Ça permet de réduire aussi le gap en matière d'enseignement supérieur de la recherche entre le Nord et le Sud.
Depuis 2015, dans 20 pays comme le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou encore le Cameroun, plus de 90 000 étudiants sont sortis de ces centres d'excellence. Plus d'un tiers d'entre eux sont titulaires d'un master ou bien d'un doctorat. Et surtout, 18 000 stages ont permis de mettre leur formation d'excellence au service d'entreprises africaines.
Frédéric Garin pour l'Afrique en marche. Bientôt 8h en temps universel, le journal dans 3 minutes sur RFI. Et comme chaque jour dans RFI Matin, un peu de musique avant de nous dire au revoir avec la chanteuse Luzlo et son titre Sugar 2, c'est dans la sélection du mois de RFI.
Il n'aurait pas dû me le montrer. Très vite, je me suis lassée de lui. Je perds pas de temps, je vais retrouver Sugar. Pourquoi c'est si bon, interdit? Je peux pas le dire, c'est bête. Je perds la tête, mais je prends le risque. Oh bébé, je suis prête à tout. Ce soir, tes péchés seront les miens. Hey. Je ne suis plus là.
Luzlo, Sugar 2 pour refermer cette édition des RFI Matin. Je remercie Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. Demain, vous retrouvez André-Anne Mellard dès 5 heures, temps universel. Et d'ici là, l'info continue. On continue de suivre notamment l'escalade entre l'Iran et Israël sur RFI et dans notre live sur RFI.fr. Très bon dimanche.
Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en tournée en France. La reine du dancehall Made in Guinée vous attend pour une série de concerts. Le 20 juin à Marseille, le 26 juin à Paris au New Morning, le 28 au Festival Nuit Métis de Miramas. Plus d'infos sur le site rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français. Le goût du monde. Clémence de Navy.
Respecter les océans et les mers, préserver les ressources, chacun peut le faire. C'est cuisiner des poissons en respectant la saison. Renoncer aux maquereaux, aux chinchards, à l'anguille, aujourd'hui menacée. C'est cuisiner tout le poisson, arête comprise. Ça vous fera un bon bouillon, ça commence par là. Durabilité de la mer à l'assiette, tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navy sur RFI.